Je voulais qu'on aborde aussi un autre sujet dans l'actualité. Il y aura bien une réforme de l'assurance chômage dès cette année. Il y a plusieurs pistes qui sont explorées, notamment la réduction de la durée d'indemnisation. On écoute Gabriel Attal, c'était chez nos confrères de TF1 ce soir.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Mais pourquoi ? D'abord, parce que je le disais il y a un instant, notre objectif, c'est d'atteindre le plein emploi, qu'il y ait davantage de Français qui travaillent. Et je le dis ici, mon objectif, c'est pas de m'en prendre à tel individu ou au chômeur. C'est de faire bouger un système pour inciter davantage à la reprise d'emploi. C'est ça le seul objectif qui est le nôtre. J'ai demandé à ma ministre du Travail de préparer de nouvelles négociations pour qu'on puisse relancer une discussion avec les partenaires sociaux autour d'une vraie réforme plus globale de l'assurance chômage. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Parce qu'on voit qu'il y a un effet très fort dans les 12 premiers mois, mais ça, c'est la première piste.
Voilà, et la deuxième piste, c'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier de l'assurance chômage. Aujourd'hui, il est 6 mois de travail sur 2 ans, et là encore, peut-être va-t-il falloir travailler un peu plus longtemps. Nous a rejoint sur ce plateau Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bienvenue à vous. Il le dit, Gabriel Attal, mon objectif, c'est pas de m'en prendre aux chômeurs, mais de mettre en place plus d'incitations à la reprise d'emploi. Est-ce que l'objectif n'est pas louable, quand même ?
Pourtant, c'est ce qu'il fait.
De taper sur les chômeurs ?
Oui, ce soir, ce qu'il a fait, pardon, c'est un propos, et pourtant j'aime bien cette allusion, de bistrot, qui consiste à dire s'il y a des chômeurs, parce qu'en fait, c'est une situation assez luxueuse, de confort, les gens se vautrent dans le chômage, il faut leur supprimer des droits pour les motiver à trouver du boulot. Ça ne marche pas, ça veut dire concrètement que ça va fabriquer des gens en situation de plus grande précarité. C'est une vision erronée, je répète qu'actuellement, il y a 18 emplois pour... Il y a 18 chômeurs pardon, pour un emploi, c'est ça le problème du chômage. Il y a peut-être des secteurs où on n'arrive pas à trouver des gens, mais souvent, ce dont on parle, là, c'est des gens qui ont cotisé. Je rappelle qu'un chômeur sur deux ne perçoit rien. D'accord, c'est ça la réalité. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui n'ont... Parce qu'ils n'ont pas cotisé. D'abord, c'est un système de cotisation, des droits auxquels on a cotisé. Ça tombe pas du ciel. Il suffit pas d'avoir travaillé quelques temps pour être dans le chômage. C'est des gens, souvent, c'est quoi le profil ? 50-55 ans, vous avez une qualification dans un métier que vous savez faire. Et puis dans votre secteur actuellement, c'est un peu difficile. Là, ce qu'il nous dit, c'est faut prendre n'importe quoi. Écoutez, vous êtes journaliste, vous avez une compétence là-dessus. Si demain vous êtes au chômage, ce que je ne vous souhaite pas, faut-il vous dire, mais enfin, Madame Julie, prenez au restaurant d'à côté, on a besoin d'une serveuse. Mm. Et allez-y, vous serez en droit de dire, attendez, moi, je sais pas faire ça, j'ai une autre qualification.
Est-ce que c'est vraiment ça qu'il dit, Gabriel Attal
Il n'est pas rentré dans ces détails-là, il y a un déficit d'emploi dans certains secteurs.
Il s'est bien gardé de rentrer dans ces détails-là ce soir sur TF1.
Qu'est-ce qu'il nous dit ? Je recontextualise parce qu'on l'a regardé tous ensemble. Il dit déjà, il y a la dette. On pourrait discuter deux secondes que la dette, selon moi, elle a été creusée. Elle a été creusée depuis 2017. Ce gouvernement a creusé la dette par moins de recettes. À moins de recettes. Il faudrait d'ailleurs s'interroger.
Là, vous dites la même chose que lui. Parce que
Non, lui, il dit pas qu'il y a moins de recettes.
Il a dit qu'on a eu moins de recettes à cause de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.
Il n'y a pas eu de dérapage dans les dépenses. On a eu moins de recettes qu'on a eu.
La différence avec lui, c'est que lui, il a supprimé des recettes. Le premier acte, moi, j'ai été élu député en 2017. Le premier acte, la priorité de M. Macron quand il a été élu, c'est supprimer un impôt qui s'appelle l'ISF. Et après, il y a d'autres choses. La mise en place, la mise en place d'une flat tax. On présentait dans le détail de, etc., etc. Moins, pour ceux qui ont la chance d'être les plus fortunés. Donc, ils cotisent moins. Enfin, ils participent moins à l'impôt. Mmh. C'était l'idée du ruissellement, vous en souvenez. Souvent, qui a été, en fait, une forme d'évaporation, en vérité, de ces recettes. Donc, tout ça, ça a creusé. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de dépenses. Faut pas faire croire aux Français qu'il y a trop de dépenses publiques. L'homme que vous avez devant vous est un élu de Seine-Saint-Denis. Mmh. On a actuellement un département qui est mobilisé pour l'école publique. Il n'y a pas plus beau que de demander la République. Parce qu'on a des professeurs absents à un tel point.
J'aimerais qu'on revienne
C'est que ce qu'il prévoit, M. le maire, c'est des économies, le ministre de M. Macron, de 10 milliards et notamment moins 690 millions pour l'éducation nationale. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? En plus, c'est dérisoire du point de vue des sommes. C'est que pour éventuellement gratter un petit peu plus de recettes, ou du moins, il faut supprimer les droits des chômeurs. Mais il y a pas. C'est un travail idéologique qu'il a fait ce soir, de dire aux Français. En plus, c'était assez piquant parce que quand il dit d'un seul coup, on me dit qu'il faudrait s'en prendre aux plus riches. Mais donnez-moi des idées, je n'en ai pas. Ah bon, pardon. Enfin, déjà, j'ai l'impression que ça fait des années qu'on en parle, mais qu'il écoute le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, Monsieur Éric Coquerel, et qui a fait adopter d'ailleurs des mesures qui ont été adoptées, y compris par des gens de la majorité, on pourrait avoir des recettes supérieures de 43 milliards, à condition de s'en prendre à toute une série de niches fiscales. On n'a pas pu.
Des choses. Il dit d'ailleurs, il n'a pas de dogme autour des
super profits. Ah si, il faut s'en prendre aux chômeurs. Ça, non mais écoutez, alors, c'est un habile communicant.
Qu'est-ce qu'on fait?
Méfiez-vous des gens qui vous disent, je ne vais pas vous frapper, mais enfin, je me mets quand même une petite gifle.
Le fait est, Alexis Corbière, qui est quand même 7,4% de chômage en France actuellement, oui. Que l'objectif, c'est de le ramener sous la barre des 5%. C'est l'objectif fixé par le gouvernement, qui a 300 à 400 000 emplois qui sont non pourvus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour inciter les gens à travailler, à retrouver un emploi?
Il y a combien de millions de chômeurs, donc, actuellement?
Dites-moi, je ne l'ai pas en tête.
On est autour de 5-6 millions, 5 millions, donc 300 000 emplois. Mmh. Et souvent, des études nous démontrent que ces emplois non pourvus, il y a des secteurs, il y a un certain type de qualification que l'on n'a pas. Il y a aussi des emplois qui sont mal formulés, parfois, avec des rémunérations totalement incroyables, fait des sous-rémunérations. C'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, c'est pas, il y a des super boulots et que les gens ne veulent pas prendre. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, je répète, de quoi on parle? On parle souvent du chômage des gens de plus de 50 ans qui ont une expérience professionnelle dans un secteur. C'est une vision, c'est pour ça que je l'ai qualifié de bistrot, de commentaire, de, comme ça, de imbécile, mais qui vise qu'à une chose, culpabiliser les chômeurs, du point de vue de la société. Est-ce que c'est vrai, ça? Et vous qui êtes journaliste, est-ce que c'est vrai que dans ce pays, les gens sont au chômage parce que finalement, ils se complaisent dans cette situation? Et bien moi, je dis que ce n'est pas vrai. Par contre, il faut créer des emplois, il faut relocaliser peut-être des entreprises, il faut mettre en place des mesures. Vous savez...
Vous dites que le chômage volontaire n'existe pas.
Très peu, marginalement, mais bien sûr qu'il y a peut-être... Mais je veux dire, pas au point que le Premier ministre vienne à la télé pour nous dire c'est ça la solution.
Alors, en tout cas, je voulais qu'on écoute un témoignage. Enfin, témoignage de Jennifer. Elle est avec nous. Vous êtes salariée dans le Morbihan. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes... Alors non, visiblement, ça bug. Donc, on ira la retrouver un petit peu plus tard. Charles Consigny, pour réagir à ce que disait Alexis Corbière, est-ce que l'idée derrière, il n'y a pas un peu... Voilà, c'est cette idée qu'on entend depuis des années qu'en gros, le travail doit toujours mieux payer que l'inactivité, que ce n'est pas toujours le cas.
Moi, je suis d'accord. Le travail paye mieux que l'inactivité,
bien sûr.
Quand même.
C'est toujours le cas?
Ça dépend qui. Ça dépend qui. Non, parce qu'il y a certes, sincèrement, il y a les salaires sont tellement bas en France, les offres de travail parfois qui ne sont pas à plein temps... Franchement, ça vaut plus le coup de rester au chômage pour certains emplois.
Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est certains cas qui sont très minoritaires. Oui. Ce qui m'interpelle d'abord, là où je peux rejoindre, pour ne pas être dogmatique, les gens de gauche là-dessus, c'est qu'il est vrai que ce gouvernement, il y a quand même eu un systématisme assez... assez effrayant, il faut bien le dire, à n'aller toujours que dans un sens favorable à ceux qui ont déjà tout. Ça a été en fait la seule vraie constante quand même du macronisme, c'est de toujours tout garantir et tout améliorer pour ceux qui sont déjà dans le fromage.
Pas non plus tout à fait vrai. Si on regarde ce qui s'est passé pendant le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Bon,
c'est vrai au niveau des résultats du pouvoir d'achat.
Excusez-moi, mais
le pouvoir d'achat a augmenté pour les 10% les plus riches, a baissé pour les 60% des classes moyennes.
Il suffit de... on le voit partout, je veux dire, c'est évident qu'il y a eu un phénomène, c'est vrai, de concentration extrême des richesses entre les mains d'un très petit nombre, et que ce très petit nombre, il a été systématiquement et méthodiquement favorisé par ce pouvoir. Ça, c'est une réalité. Mais à part ça, moi, je pense qu'il y a un autre problème dont on ne parle pas dans tous ces débats, c'est tout simplement l'appauvrissement de notre pays et la désindustrialisation de notre pays. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve à devoir donner un coup de rabot sur l'indemnisation du chômage, réduire les dépenses publiques, être totalement paniqué par le déficit qui dérape, etc. Mais parce qu'on est tout simplement un pays qui s'appauvrit dont la machine économique est en train de se gripper de manière dramatique. Et c'est, à mon sens, le vrai sujet, il est là. Comment est-ce qu'on retrouve les conditions pour devenir un pays prospère?
Alors,
je disais, mais il y a des pays dans le monde qui sont prospères, qui marchent bien, qui n'ont pas besoin de prendre les mesures qu'on prend.
Je voulais qu'on écoute un témoignage. Je crois qu'on a réussi à rétablir la connexion avec Jennifer Bourdieck. Merci d'être avec nous. Je disais donc, vous êtes salarié dans le Morbihan. Vous êtes vendeuse en boulangerie. Vous êtes en CDI, au SMIC. Et vous dites que vous êtes satisfaite, c'est ça, des annonces de Gabriel Attal ce soir sur l'assurance chômage?
Alors, bonsoir à tous déjà. Et alors oui, de ce que j'ai entendu en tout cas ce soir à la télé, il y a des choses qui me satisfont parce que je me dis qu'il est peut-être temps en fait, d'encourager les gens à rester le plus longtemps possible à la maison. Pendant ce temps-là, comme disait Monsieur Consigny, le pays s'appauvrit. Et à partir de là, il faut peut-être que certaines personnes se remettent en question, se remettent au travail pour relancer l'économie et arrêter de piocher dans les caisses de l'État incessamment.
Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des abus ?
Ah oui, bah complètement. Mais après, il n'y a pas que dans le domaine du droit au chômage qu'il y a des abus, mais ce soir, c'est ce dont on parle. Oui, alors, c'est mon point de vue, j'estime qu'il y a beaucoup d'abus. Après, je fais partie de ces gens qui considèrent qu'il faut travailler plus pour gagner plus. J'ai eu très, très peu l'occasion d'être au chômage dans ma carrière professionnelle, si ce n'est entre deux emplois, vraiment juste le temps de se retourner ou quelque chose comme ça. Et je veux dire, du travail en France, il y en a. Et le chômage a déjà, la rémunération du chômage a déjà diminué et c'est déjà très long, 18 mois actuellement. Est-ce qu'en 18 mois, il n'est pas possible de retrouver du travail plus rapidement ? En tout cas, c'est ce que M. Attal a évoqué ce soir sur TF1. Et je pense que c'est effectivement peut-être des choses sur lesquelles on peut se pencher. Alors, ce n'est pas les seules pour réduire la dette de l'État, mais c'est potentiellement une des solutions. Pourquoi pas l'envisager ? Ça n'a jamais été fait. Il faut peut-être tenter de ce côté-là.
Alors, pardon, Alexis Corbière, pardonnez-moi, ce soir j'ai du mal avec les noms, visiblement, pardonnez-moi. Non, Alexis Corbière disait sur le plateau, il prenait mon exemple, il disait, voilà, si un jour vous vous retrouvez au chômage, Julie Yamette...
Surtout, pendant, j'ai répondu à Jennifer qui dit que ça n'a pas été fait, ça vient d'être fait il y a deux ans, il y a un an et demi. On a déjà raboté, chère Jennifer, les droits des chômeurs. Le même principe, je crois que c'est 30% de l'indemnité chômage qui a été supprimée, etc. Il continue, il a dit même ce soir, il veut aller encore plus loin. Je veux pas manquer de respect à Jennifer, elle a du travail. Et par ailleurs, je trouve que si vous êtes payé au SMIC, que y compris avec le SMIC chez vous, je sais pas comment ça se passe, mais sachez qu'en région parisienne, ça permet à peine de vivre dignement. C'est très difficile en raison du prix du logement, de toute une série de choses. Donc les salaires sont trop bas. Et deuxièmement, chère Jennifer, vous savez, un chômeur sur deux ne perçoit aucune indemnité. Donc, et ce dont on parle, ça n'est pas quelque chose qui, ça a été dit tout à l'heure, je reprends, il y a 18 chômeurs pour un emploi. Quand même, on forcerait, si je puis dire, tous les chômeurs à utiliser les emplois actuellement, on ne réglerait pas le problème du chômage. Maintenant, ce dont il faut s'interroger tout de même, c'est, et là je réponds un peu à Charles Consigny, bon, on peut parler de beaucoup de difficultés du pays, mais nous sommes quand même un pays riche. Mais ce que nous ont dit dernièrement les agriculteurs, par exemple, c'est un sujet qui est intéressant. Des gens qui travaillent, et entre ce qu'ils produisent et le prix auquel nous le payons dans le caddie, quand on va faire nos courses, il y a un problème parce qu'il y a des gens qui font des marges très importantes. La grande distribution, le lobby agro-industriel, et eux, ils font des profits. Est-ce que, par exemple, sans mettre tout le pays cul par-dessus tête, sans spolier qui que ce soit, mais est-ce qu'on peut éventuellement, vous voyez, faire que ces marges soient moins importantes, soit par des systèmes d'imposition qui reversent dans la caisse de l'État pour mener des politiques publiques, soit éventuellement qui se tournent plus favorablement vers nos amis agriculteurs qui font un métier indispensable. Si on réfléchit pas à cette structure-là, où sont les richesses? Ce soir, le Premier ministre a fait un aveu en voulant donner un argument choc. Il a dit, l'impôt sur le revenu, 70% de l'impôt sur le revenu, c'est payé par 10% des gens. Sur le coup, on se dit, ah, il y a que les riches qui payent. Ouais. Ça va peut-être aussi nous dire que la richesse, elle est concentrée sur une minorité. À tel point que l'impôt sur le revenu, en fait, est surtout payé par là où se concentre la richesse. Donc, vous voyez, il faut augmenter les salaires, mieux répartir la richesse. C'est ça la République. Vivre tous.
Alors, je crois que Jennifer, justement, souhaitait vous répondre et souhaitait réagir.
Je vous en prie.
C'est à vous, Jennifer.
Alors, sur plusieurs choses, je connais très très bien le taux de vie de la région parisienne parce que je suis issue de la région parisienne, je suis née dans les Yvelines, j'y ai vécu pendant quasiment 30 ans, ça fait très peu d'années que je suis arrivée dans le Morbihan. Effectivement, le coût de la vie ici est peut-être un peu moins élevé, quoique c'est en train de changer depuis le Covid, surtout sur tout ce qui est immobilier. On a vu quand même les prix bondir. Après, concernant ce qu'a dit Monsieur Attal, il n'a pas dit qu'il n'y avait que les riches qui payaient des impôts, hein, parce que je l'ai écouté aussi. Alors, pour savoir, avec mon conjoint, je ne me considère pas du tout comme riche, on fait partie de la classe moyenne, on paye des impôts, on a fait partie des derniers qui ont payé la taxe d'habitation. Je veux dire, les agriculteurs, malheureusement, ils ont beau travailler toute leur vie, c'est pas des gens qui prétendent au chômage, en tout cas pour ceux qui sont à leur compte. Et vous parlez des plus gros profits, mais malheureusement, le président et tous les ministres ne peuvent pas forcément intervenir sur ces gros profits-là, étant donné que c'est pas forcément des groupes qui sont tous français avec les profits en France. Donc alors oui, il y a beaucoup de profits. Alors ça, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut absolument revoir le mode de taxation des gros groupes, mais sur des groupes qui sont internationaux, le pays va pas pouvoir intervenir. Et ils vont pas. On sait très bien qu'ils vont pas pouvoir imposer en France des choses qui ne sont pas faites ailleurs. Alors ça se fait déjà sur certains domaines. Ça va être très compliqué. Je pense que tout simplement ils essayent de trouver des solutions sur ce sur quoi ils ont la main. Et vous dites que ça a été l'indemnité chômage a déjà été réduite de 24 à 18 mois. Mais je veux dire en 24 mois. C'est déjà très long, en fait, finalement, 24 mois, une période d'indemnisation au chômage à être à la maison. Et vous n'allez pas me dire que 100% des gens qui touchent le chômage sont actifs dans leur recherche d'emploi. On sait tous que c'est absolument faux. Et c'est peut-être sur ça qu'ils essayent de travailler, d'inciter. C'est ce que disait M. Attal par rapport au RSA qui a été modifié, qu'il fallait je trouve pas mes mots, excusez-moi. Il fallait s'investir au sein de différentes associations pour pouvoir bénéficier du RSA. Mmh. Et qu'a priori, ça portait ses fruits, puisque ça a réincité des personnes qui n'étaient plus du tout dans un mode de recherche d'emploi à s'y remettre. Alors oui. Je dis pas que les personnes qui, par exemple, sont très diplômées, surdiplômées, qui arrivent sur des périodes de chômage doivent accepter le premier boulot venu pour pouvoir ne pas être au chômage. Je dis juste qu'il y a peut-être, on le sait, une certaine partie de la population qui profite de tout un système qui va pas en sens de les réorienter vers le travail.
Et vous dites quoi? Qu'il faut que parfois certaines personnes revoient leurs exigences à la baisse, c'est ça?
Non, justement, c'est ce que je disais. Ceux qui sont surdiplômés, je vais pas leur demander d'accepter le premier boulot de vendeur ou de serveur alors qu'ils sont ingénieurs ou je ne sais quoi. Et effectivement, ces gens-là, on peut comprendre que ça prend plus de temps. Parce que forcément, il y a certains métiers qui ne se trouvent pas à tous les coins de rue.
Mais alors, comment on fait autour de vous, est-ce que vous avez beaucoup d'emplois qui sont non pourvus?
Alors, dans le Morbihan, alors en tout cas, pour ma région, il y a comme partout, il y a des emplois. Alors, c'est pas les emplois qu'on voit le plus. Alors, nous, ça va être dans la santé, hein, énormément. Moi, je sais que après, je connais le milieu de l'emploi de la santé parce que on y est en plein cœur avec mon conjoint et tout notre entourage. Je sais que dans la santé, il y a énormément d'emplois à pourvoir. Et après, comme dans toute la France, je veux dire, dans tout ce qui est grande distribution, restauration, hôtellerie, c'est des métiers qui trouvent pas preneur. Et pourtant, s'il y a 7% de chômeurs en France, c'est bien qu'il y a des gens qui doivent travailler. Je dis pas que tout le monde doit accepter les premiers postes, mais forcément sur les millions de chômeurs, il y en a forcément qui pourraient se réorienter vers le travail plutôt que d'attendre le métier, la perle rare, oui, qu'on attend tous et qu'on ne trouvera jamais en fait.
Je rappelle que vous parlez du milieu de la santé que vous connaissez bien parce que votre époux, votre compagnon, je crois, est infirmier libéral. Vous l'entendez quand même, discours, Alexis Corbière?
Oui, je l'entends, je l'écoute, je respecte ce que dit Jennifer, mais je lui ai répondu que je ne vois pas en quoi ce que nous dit Jennifer doit entraîner le fait que toute une série, d'acquis sociaux, mais qui y compris sont utiles en période de crise, parce que si plus vous supprimez des droits, plus vous faites basculer des gens dans des situations de précarité, de pauvreté, et ça coûte très cher au pays. Le problème de ce pays n'est pas ces aides sociales, ce pognon de dingue dépensé, des services publics trop importants. Cher Jennifer, je connais pas bien votre région, mais je vous assure que dans un département comme le mien, quand on va à l'hôpital, on attend des heures parce qu'il n'y a pas assez de personnel, que l'école, c'est la base de tout, est en situation de crise à tel point qu'il y a une mobilisation très importante qui dure depuis plus d'un mois et demi maintenant. Non, etc., etc. Ce que nous vient nous dire ce soir le Premier ministre, c'est en gros, il y a trop de dépenses et il faut faire un effort supplémentaire en direction de la population. Déjà, il leur a imposé 2 ans de plus de travail qui amène en vérité, les chiffres nous le démontreront, que les gens ne vont pas aller jusqu'au bout de leur totalité de leur trimestre, qui lorsqu'ils seront au chômage à partir de 55, 56 ans, ils n'auront pas tout leur trimestre, ça fera des retraités pauvres. Maintenant, ça va nous faire des chômeurs en situation avec moins de droits. Je ne vois pas en quoi le pays ira mieux quand, je le donne à Jennifer, ça peut lui sembler des sommes importantes, 140 milliards de profits faits par les entreprises du CAC 40, 70 milliards reversés.
C'est pas dans le pays le plus taxé au monde, hein. C'est en France où on paye le plus d'impôts et le plus de taxes.
Ce n'est pas vrai. N'est pas vrai.
Regardez les chiffres simplement sur l'Europe. Sortis aujourd'hui, 27 sur 20.
Mais
au niveau des impôts.
Mais on en paye moins depuis que. Arrêtons.
Et nous sommes le pays le plus redistributif du monde. Ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, où va l'argent? Je suis d'accord avec vous. Dans ce cas-là, où va l'argent?
Mais vous savez, les pays, où il y a moins de services publics, en vérité, c'est des pays, j'en connais certains, notamment en Amérique latine, où tout coûte cher. L'école coûte cher, l'hôpital coûte cher.
Et en fait, vous parlez de la dégradation de l'hôpital, alors que nous sommes un pays très taxé. Donc il y a quand même un problème entre ce qui est prélevé et
j'aimerais qu'on écoute Ségolène Royal.
Essayons d'éviter les formules très taxées. De qui on parle exactement?
Non, mais c'est la réalité.
De qui on parle? Non, non, non. Il y a des gens, je pense, qui pourraient l'être davantage. indiscutablement, qui ont, je le répète, à l'heure actuelle tout de même, vous l'avez sur votre plateau régulièrement dit, il y a des fortunes qui ont fortement augmenté, en particulier depuis 2017, et je ne vois pas en quoi c'est scandaleux, ce serait spoliateur, ce serait la Corée du Nord, que de revenir à un niveau de fiscalité dans les années 80, lorsque Ségolène Royal était ministre, par exemple, la gauche a mis en place des mesures qui, me semble-t-il, à cette époque-là, le taux d'imposition était plus important, et la France, c'était pas l'Union soviétique, d'accord ?
Et puis beaucoup de gens sont partis quand même.
Alors, mais c'est justement, j'aimerais qu'on écoute Ségolène Royal sur le sujet. Messieurs, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute Ségolène Royal sur le discours du témoignage
que vous venez d'entendre. Moi, j'aime bien le discours de Jennifer, parce que derrière ce discours, il y a le goût du travail dur, manifestement, du travail appliqué, du travail passionné. Et ça, c'est la valeur travail, que j'ai toujours défendue, d'ailleurs. Et ça, c'est une belle valeur. Et qu'est-ce que ça implique, la valeur travail? Ça implique que le travail soit moins taxé que le capital, que les revenus du capital. Parce que c'est ça le vrai problème. On fait croire que c'est le problème des pauvres, des chômeurs. S'il faut lutter contre la fraude ou contre les effets d'aubaine, pourquoi pas? Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail, notamment dans les classes moyennes, est beaucoup plus taxé que les revenus du capital. De ceux qui s'enrichissent en dormant, il suffit d'avoir aujourd'hui des actions pour gagner beaucoup plus d'argent qu'en travaillant. Donc c'est ça le problème, qu'on soit de droite ou de gauche d'ailleurs, si tout le monde est d'accord avec le revenu du travail, pourquoi est-ce qu'on ne taxe pas autant les revenus du capital et même pire, pourquoi est-ce qu'on a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune financière? C'est pas normal, donc je vois que Gabriel Attal n'a pas fermé la porte, mais il faudrait passer aux actes. Et la seconde chose, il faut savoir qu'il y a 100 milliards d'évasion fiscale, en plus de la fraude fiscale. Qu'est-ce que c'est l'évasion fiscale? Ce sont les entreprises qui, en utilisant la loi fiscale, trouvent des systèmes pour échapper à l'impôt. Je vais vous citer un seul exemple. Lactalis, le géant mondial du lait, qui met à genoux les petits producteurs, qui sont souvent poussés même au suicide, a fait de l'évasion fiscale pour 250 millions d'euros en délocalisant une partie de ses bénéfices au Luxembourg et en Belgique. Donc, première question, comment se fait-il qu'au sein de l'Europe, il y ait encore des paradis fiscaux? Première chose. Ah oui. Et deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une lutte beaucoup plus féroce contre l'évasion fiscale qui touche aussi les grandes entreprises du CAC 40, les assurances, les banques? La BNP, quand même, s'est fait prendre la main dans le sac pour de
l'évasion. Donc, pour vous, ça, c'est la solution.
Est-ce que c'est normal? Les gens déposent leur argent dans les banques et les banques font de l'évasion fiscale et en plus, elles s'enrichissent avec la hausse des taux d'intérêt. Et donc, je pense qu'il y a une remise en ordre à faire sur plus de justice, plus de transparence et en effet, plus de mise en avant de la valeur travail pour qu'il soit moins taxé que le capital.
Non, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à cela. Mais pour revenir au cœur du sujet, en fait, il y a de nombreux pays où la durée d'indemnisation du chômage et le taux d'indemnisation est fluctuant par rapport au taux de chômage. C'est pas idiot de penser que quand il est plus facile de retrouver un travail puisque le chômage est bas, est-ce qu'on peut pas simplement réduire ce nombre-là, ces indemnités et le nombre de mois d'indemnisation? Et puis quand c'est plus dur de retrouver un travail, et là ce serait une vraie mesure sociale, d'allonger la durée et le montant d'indemnisation. M. Corbière, vous pensez pas que c'est un peu logique de faire ça?
Je veux dire, moi,
mais ça va dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire que quand c'est dur de trouver du travail, on peut rester plus longtemps au chômage. Et quand c'est plus facile de trouver un travail, on peut rester moins longtemps au chômage.
Mais ce à quoi on a assisté ce soir, pardon, mais...
Non, mais répondez à la question, simplement.
Mais parce que c'est une... Je vais vous répondre d'une certaine
manière. Il y a plein de pays qui font.
Hein. C'est-à-dire qu'on affole le pays en disant, au secours, la dette est là, on ne peut plus rien faire. On va s'en prendre à ceux qui sont au chômage. Voilà, c'est tout. Après, on peut réfléchir à plein de choses, comment on améliore, comment on bonifie.
Mais
comment...
pour la valeur travail dont parlait Mme Royal, de permettre aux gens de retrouver facilement du travail.
Mais la valeur travail, ça commence par une chose, c'est le salaire. Est-ce qu'on peut payer dignement? Le salaire minimum dans ce pays ne permet pas de vivre dignement. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? C'est quand même choquant. Aujourd'hui, avec le salaire minimum dans la loi, dans beaucoup de pays, on ne peut pas, enfin dans beaucoup de départements, et en particulier dans les grandes agglomérations.
Vous avez vu sur cette question ce que propose Gabriel Attal. Il dit qu'il veut revoir le système des allègements de cotisations pour que ça incite davantage à augmenter les bas salaires, dans le cadre de la fameuse désmicardisation.
C'est une bonne piste, à condition que les cotisations soient mises aussi sur les revenus du capital. On réglerait le problème du travail, on pourrait augmenter effectivement la rémunération du travail en baissant les cotisations et en transférant ces cotisations sur les revenus les revenus du capital.
Ce qu'on appelle les cotisations, c'est une part du salaire différé. C'est des cotisations dans des organismes, dans des caisses. C'est-à-dire que si vous baissez des cotisations concrètement, vous alimentez moins des caisses, qui sont des caisses notamment souvent de santé, qui sont utiles aux gens. C'est toujours facile à dire, mais le jour où vous tombez malade, vous êtes content aussi que éventuellement vous soyez pris en charge. Moi, je veux dire, je vais pas faire entrer dans ma vie, mais actuellement ma maman qui est malade, qui est hospitalisée, tout ça coûte très cher et on est bien content qu'il y ait toute une série de caisses sociales auxquelles les gens ont cotisé. Donc, si vous dites il y a moins de rentrées, qu'il faut baisser les cotisations, on va appauvrir toute une série de caisses qui permettent la solidarité réelle. Qu'est-ce qui va se passer? Que ceux qui ont les moyens pourront avoir accès à des soins et les plus modestes n'iront pas accès. Je ne veux pas de cette société. Je le répète, moi je suis pas pour. Je suis pour être optimiste. On est un grand et beau pays. Il faut arrêter la sinistrose. On produit des richesses. Les Français sont productifs, les travailleurs français sont des gens qualifiés qui travaillent
beaucoup.
Et bien cette richesse, tranquillement, il serait temps de mieux la répartir pour vivre mieux tous et non pas dans un discours d'exercice de communication que fait le Premier ministre de dire on pourrait taxer les surprofits, mais enfin j'ai pas d'idée. C'est quand même assez singulier, on se demande pourquoi le Premier ministre il a pas d'idée là-dessus. Par contre, il a l'idée qu'il faut mettre la pression, je le répète, sur ceux qui sont en difficulté.
Enfin, il a pas d'idée, il parle justement de taxer les superprofits des énergéticiens.
Non madame, je l'ai entendu, il a dit donnez-moi des idées, c'est quand même singulier.
Mais Bruno Le Maire a bien parlé de ce secteur-là.
Mais pourquoi on n'écoute pas la commission des finances de l'Assemblée nationale? 43 milliards, elle propose de recettes, de notamment supprimer la niche Copé, par exemple, qui permet l'optimisation fiscale à hauteur de 5 milliards. C'est scandaleux de taxer davantage, par exemple, toute une série de produits polluants sur le kérosène. Alors, il y a des tas d'idées. On peut faire entrer des choses dans les caisses de l'État.
Intéressant aussi de se comparer un petit peu aux autres pays autour de nous. Lisa Hadef, comment l'assurance chômage indemnise-t-elle ailleurs dans le monde?
Alors, très longtemps, notre modèle français d'assurance chômage a été perçu comme celui qui a indemnisé le mieux. Pourtant, la France n'est pas la plus généreuse. C'est en Belgique que l'assurance chômage est la plus bénéfique, tant en termes de montant d'indemnisation qu'en durée, puisqu'elle est quasiment illimitée. Faisons un focus sur trois pays voisins qui ont des modèles et des critères assez différents des nôtres. La comparaison est faite sur les critères suivants. Les conditions d'obtention de l'assurance chômage, c'est-à-dire le temps minimum travaillé pour en bénéficier, la durée d'indemnisation et le montant de l'indemnisation. Regardez, en Allemagne, il faut travailler un an pour ouvrir ses droits au chômage pendant 6 à 24 mois en fonction du statut du métier exercé. En France, il suffit d'avoir travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois. Et le bénéficiaire en Allemagne touchera jusqu'à 67% du salaire de référence net. En France, c'est moins. En Angleterre, qui fait partie des pays les moins généreux, si vous travaillez pendant un an sur les deux dernières années, vous aurez droit à 6 mois de chômage. C'est la durée minimale chez nous en France. Le montant de l'indemnisation dépend de votre âge et le salaire outre-Manche est souvent versé par semaine. C'est donc 76 euros par semaine pour les moins de 25 ans et 95 euros par semaine pour les plus de 25 ans, ce qui fait à peu près 304 euros par mois jusqu'à 380 euros par mois. Et le taux de chômage en Angleterre est plutôt bas. Et en Espagne, où le taux de chômage est très élevé, il faut travailler 360 jours, donc un peu moins d'un an, au cours des 6 dernières années. Et ça donne droit au chômage pour une durée de 4 mois à 4 ans selon la situation familiale. Mais attention, la méthode d'indemnisation est dégressive. 70% du salaire pendant les 180 premiers jours, puis 60% à partir du 181e jour. Entre tous ces pays, en termes de ratio indemnité temps travaillé, la France est donc à la troisième place, n'est pas la plus généreuse, mais il y a beaucoup plus sévère quand même.
Merci beaucoup, Lisa. Je voulais revenir vers Jennifer, qui est toujours avec nous, je crois. On parle aussi des bas salaires. On parle beaucoup des bas salaires, notamment ce soir avec ces propos de Gabriel Attal. Vous estimez qu'il vous faudrait combien en plus pour vivre correctement ?
Alors, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Fred Hermel. Je suis à 1000% d'accord avec lui. J'en parlais encore ce soir avec mon conjoint quand on écoutait Gabriel Attal sur le mode d'indemnisation du chômage. De toute façon, je suis très, très souvent d'accord avec lui, donc je ne suis pas surprise. Oh
là là. Le message est passé.
Merci, Jennifer.
C'est vous qui avez donné les coordonnées,
Et sur la question, des bas salaires.
Alors moi, je suis, comme on a pu l'évoquer, je ne suis pas dans les plus gros salaires parce que je suis indemnisée au SMIC, mais sur 37 heures. Donc forcément, je gagne peut-être un petit peu plus que quelqu'un qui va être au SMIC à 35 heures. Mon conjoint, lui, étant à son compte, après c'est un autre mode parce qu'on parle, des salariés, mais alors qu'on est indépendant, en termes de taxation, c'est une catastrophe. Mon conjoint, lui, est taxé quasiment à 60% sur ce qu'il gagne. Donc en fait, il y a beaucoup qui rentrent, mais il y a énormément qui sortent. Nous, ce qu'il faudrait, il nous faudrait en plus, alors si on compte pas les accidents de la vie, les crédits ou ce genre de choses, on aurait besoin, parce qu'on est quand même une famille nombreuse, on aurait besoin peut-être que de seulement entre 300 et 500 euros par mois pour se poser beaucoup moins de questions, ça c'est certain. Après, pour être déjà intervenu dans votre émission il y a plusieurs semaines, moi, j'ai tendance à tout calculer, à tout prévoir. Et en fait, le reste à vivre, une fois que tout est payé, est toujours catégorisé en fonction de ce dont on aura besoin, ce qui m'évite de me retrouver dans le rouge. Bon, ça arrive, hein, comme à tout le monde, on a tous des accidents. Mais aussi, avec le discours que vous venez de tenir, on se rend compte aussi que, en fait, la France a beau être... généreuse, on n'est pas les plus mauvais élèves et on voit des pays comme l'Angleterre qui vont être très très restrictifs finalement, ont un taux de chômage très bas parce que les gens se disent que de toute façon en restant à la maison, c'est pas comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Donc forcément...
Donc pour vous, c'est la preuve que ça marche finalement d'être un peu plus, un peu moins généreux sur l'assurance chômage.
Alors pour le coup, j'ai pas toujours été d'accord avec Ségolène Royal, mais là j'apprécie le côté de la rigueur au travail. Effectivement, à un moment, de toute façon, on peut pas espérer gagner des millions en n'ayant pas travaillé. Et puis travailler, alors oui, il y a les bas salaires, il y a les personnes peut-être qui ont moins de capacités, moins de compétences, et il faut de tout pour faire un monde. Mais je veux dire, ne pas travailler, ça n'incite pas non plus à évoluer, à peut-être avoir envie de découvrir d'autres choses, se dire que finalement ce qu'on s'apprêtait à faire, ça ne nous convient pas, donc on va peut-être se former pour faire plus. Et l'assurance chômage sert aussi à ça. J'ai eu la chance de bénéficier de l'assurance chômage pour pouvoir faire une formation et changer de métier au moment où j'en ai eu besoin. Et je préfère encore être que des personnes soient indemnisées à se former pour faire d'une quelque chose qui leur plaît. Parce que se lever le matin pour faire quelque chose qui ne nous plaît pas, je peux comprendre que c'est barbant et que personne n'en a envie. Mais l'assurance chômage sert aussi à ça. Et c'est une chance qu'on a en France, c'est pas le cas partout dans le monde, de pouvoir être rémunéré à être formé pour faire quelque chose qui nous plaît, pour évoluer, pour justement gagner plus ou en tout cas gagner de l'argent différemment. Et on a cette chance. Et alors, on parle de la santé qui va être en manque. Alors, pour revenir en Bretagne, on attend aussi longtemps aux urgences qu'en région parisienne. Hein, faut pas se leurrer. Parce qu'il y a peut-être moins de monde, mais il y a moins d'hôpitaux. Donc, alors forcément, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Je veux dire, peut-être que si on redistribuait moins à tour de bras, on pourrait avoir une école qui serait peut-être un peu mieux structurée, l'hôpital qui serait, les infirmières qui seraient moins burn-out, et dans les EHPAD, ça serait moins compliqué, et la police aurait plus de moyens, etc., etc.
Jennifer Bourdieu. J'aimerais qu'on réagisse aussi à un autre sujet qui a été évoqué par Gabriel Attal, c'est non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine en 4 jours. La nuance est importante, on écoute le Premier ministre là-dessus.
Il s'agit de dire qu'il faut sortir de ce carcan des 35 heures par semaine où on pointe et on regarde chaque jour et chaque semaine. Donner plus de souplesse à ceux qui le souhaitent. Vous avez des salariés, vous avez des agents publics qui se disent... moi, en fait, je veux bien faire mes 35 heures, mes 37 ou 39 heures quand il y a des dérogations. Je veux bien faire mes 35 heures, mais sur 4 jours plutôt que 5. C'est ça qu'on a proposé, que j'avais proposé quand j'étais ministre des Comptes publics dans mes administrations. Ces nouvelles modalités de travail, cette souplesse donnée à ceux qui le souhaitent dans le travail, on allait l'expérimenter dans tous les ministères dès cette année. Évidemment, je souhaite que dans les entreprises, et d'ailleurs certaines ont déjà commencé à le faire, ça puisse se développer.
Donc Charles Grossini, on ne réduit pas le temps de travail, on assouplit les horaires pour être plus flexible.
Oui, bien sûr, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais c'est sûr que c'est ça. Mais bien sûr, mais c'est
vous n'êtes pas convaincu, ça.
Mais non, mais c'est une bonne chose à faire en France. En France, il faut réduire le temps de travail.
Mais c'est pas ce qu'il dit.
Non, mais c'est vrai. Et particulièrement.
Mais c'est pas ce qu'il dit, Charles.
Bien sûr, mais il nous prend pour des neuneux. Vous pensez vraiment que à partir du moment où vous mettez les gens à 4 jours par semaine, vous croyez vraiment qu'ils vont faire les 35 heures pile poil par semaine? Mais c'est du foutage de gueule. Et il nous fait toute une émission pour nous dire qu'il remet la France au travail. Et à la fin de l'émission, il dit que par contre, dans les ministères, on va passer à 4 jours par semaine. Mais c'est du foutage.
Il a dit qu'il allait tester.
Charles, allez jusqu'au bout et on va tous vous entendre là-dessus.
Moi, je trouve ça honteux. Je pense qu'en France, on a au contraire un problème de temps de travail. Je pense qu'on doit travailler plus. Je pense que la seule chose qu'on doit faire dans ce pays, c'est se retrousser les manches si on a envie de rester un grand pays. Malheureusement, le gouvernement a laissé tomber, en parfait accord avec les Insoumis, l'idée de rester un grand pays. Donc excusez-moi de
Alexis
dire,
Corbière
je suis en contact.
C'est l'alliance d'Alexis Corbière et Gabriel Attal.
Je suis en contact. C'est bien sur certains sujets, oui. Moi, je suis en contact avec une administration qui est la justice, le service public de la justice. Je constate les ravages déjà des 35 heures sur soi-disant 4 jours. Ça fait longtemps qu'ils sont à 3 jours. Sur soi-disant 5 jours. Je n'ose même pas imaginer ce que ça va être après. Il faut aller voir dans certaines administrations à quelle heure ça ouvre, à quelle heure ça ferme, quelle est l'attitude des gens que vous avez en face de vous. Tout le monde a constaté quand vous essayez de refaire un titre d'identité, quand vous essayez de contacter telle ou telle administration, etc. On a un problème de travail en réalité. Donc moi, je pense que c'est un très, très mauvais signal. Et je constate que, comme d'habitude, mais c'est pour ça que ce jeune homme, il fait beaucoup de politique.
D'un ce côté, jeune homme.
Oui, mais c'est, bah, c'est mais
un jeune homme. Vous avez le même âge.
D'un côté, bah, je suis encore un jeune homme. Excuse-moi. D'un côté, il envoie un message aux boomers électeurs d'Édouard Philippe, qui, eux, ont envie qu'on réduise le temps d'indemnité du travail. Donc ça, ils ont reçu le message, ils sont dans leur salon confort, devant leur écran plat, ils voient le truc, ah, ça, c'est bien. Et de l'autre côté, il envoie un message aux fonctionnaires. Parce que, en fait, sa semaine de 4 jours, elle va être testée d'abord que sur les fonctionnaires. Paf, paf, deux segments, et c'est politiquement habile. Mais moi, je pense que ça n'est pas des bonnes choses à faire pour une bonne politique. Alors, je pense qu'on doit au contraire augmenter le temps de travail.
Alexis Carbière, est-ce que vous êtes d'accord quand il dit, il nous prend un peu pour des neuneux, à partir du moment où on dira c'est la semaine en 4 jours, on ne bossera pas autant que sur 5?
Non, mais bon,
c'est l'évidence même.
Je sais bien que Charles Consigny est un homme plein d'humour et de verbe, mais il ne faut pas jouer avec ça, cher Charles. Je veux dire, les Français travaillent beaucoup, hein. Actuellement. C'est pas vrai qu'on fout rien dans les administrations.
Dans certaines, si.
Non, mais bon, bref. Moi, je suis pas d'accord avec ces propos de bistrot. Faut
arrêter. Dans certaines, c'est méprisant.
Bon, mais alors, sur la semaine, en 4 jours. Alors,
le problème, c'est que, vous savez, quand j'étais petit, il y avait une pub, là, c'était Canada Dry. Ça a le goût et l'odeur de, mais c'est de l'alcool, mais ça n'en est pas. Bon, il y a un sujet qu'il faudra aborder, c'est celui, moi, je suis pour, et je le porte dans mes programmes, la réduction du temps de travail. D'accord? Aller vers les 32 heures, etc. Mais là, c'est pas du tout ce que nous dit Gabriel Attal.
Non.
Ce qu'il nous dit, c'est éventuellement une possibilité d'organisation où vous viendrez plus tôt le matin. Il faudrait être là plus tôt, vous finirez plus tard, éventuellement vous pouvez vous libérer une journée dans la semaine. Donc ça ne change absolument rien. Là où ça a été testé, je crois que votre collègue Gilles Boulot l'a pointé, je crois que c'est à la caisse primaire d'assurance maladie d'Amiens, ça n'intéresse personne parce que finalement
ça a pas été très compliqué.
C'est très compliqué.
Il n'y avait pas de volonté.
Par contre, là où Charles Consigny pour le coup a raison, c'est que c'est de la com. Alors c'est sûr que si t'as pas l'oreille très attentive, tu lances le débat, ouais quand même, il est pas si antisocial que ça parce qu'il est prêt à discuter la semaine de 4 heures, etc. Mais j'invite les Français à écouter ce qu'il a dit. Il n'est pas pour la réduction du temps de travail, il est juste pour permettre éventuellement une organisation. Alors c'est toujours pareil, peut-être que les cadres en profiteront, parce qu'après tout, aujourd'hui, à l'heure du télétravail, on peut rester. Très bien, mais du point de vue, pardon, je vais être vulgaire, hein, de la classe ouvrière, ceux qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler, ceux qui nettoient le bureau et le studio le soir, ça, les gens vont pas s'organiser comme ça en venant une heure avant ou, en partant plus tard. C'est pas vrai. Donc, je veux dire, je trouve que c'est quelque chose qui n'apporte rien. Le Premier ministre l'a évoqué, et il sait bien qu'il commence à en parler pour le coup. Il y a deux travailleurs chaque jour qui meurent sur les chantiers. Le travail, c'est dur, on travaille beaucoup. Il y a trop de morts au travail. Passer l'inspection du travail.
Évoqué.
Mais ça, c'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet. Et
il n'apporte rien. Après, il
l'a clairement évoqué. Et
moi,
visiblement, il veut essayer de trouver des solutions.
Travailler moins ou travailler tous.
Je voudrais tous vous entendre rapidement. Alors, Frédéric Hermel, ensuite Ségolène Royal.
Oui, j'ai très rapide. C'est la semaine en 4 jours et le miroir aux alouettes. C'est-à-dire que ça va empêcher la hausse des salaires. Parce que le patron, qu'est-ce qu'il va dire? Ah non, tu vas pas me demander en plus de que j'augmente le salaire. Je te permets de t'adapter et de ne travailler que sur 4 jours. Donc c'est une mesure antisociale.
Ah donc vous n'êtes pas pour.
Ah non, je suis totalement opposé.
C'est Ségolène Royal.
Le problème dans ce pays, alors, ce sont les salaires et ça va empêcher la hausse des salaires.
Quel est le thème derrière cette thématique de la semaine de 4 jours? C'est la souplesse dans l'organisation du travail. Pourquoi pas? Ça peut être un progrès social que de libérer un peu de souplesse dans l'organisation du travail. Mais ça doit se faire entreprise par entreprise. Ça, c'est la première chose. Parce qu'en fonction de la nature même de l'entreprise, ça sera possible ou ça ne sera pas possible. Et la seconde chose, c'est les inégalités que ça va faire surgir. Parce qu'une fois de plus, les agriculteurs, ils ne pourront pas travailler 4 jours, il faut traire les vaches tous les jours. Les soignants, ils ne pourront pas travailler 4 jours parce qu'ils ne vont pas laisser les malades. Donc, commencer par citer les ministères, ça, je pense que c'est une très mauvaise idée. C'est pas bon pour la réputation des fonctionnaires, on va dire encore. Voilà. D'autant que la fonction publique est au service de la société. Donc, il ne peut pas y avoir un jour où il n'y a plus personne dans les ministères, parce que les entreprises, les particuliers, l'organisation de la vie des services publics, ce sont les ministères qui le gèrent. Donc, ils ne peuvent pas, eux, se mettre à 4 jours si le reste de la société n'y est pas. Le service public est au service du public. Donc, c'est vraiment les derniers à pouvoir en profiter, à mon avis.
Et alors, qu'en pense Jennifer, qui est toujours avec nous? Je rappelle que vous êtes vendeuse en boulangerie, la semaine en 4 jours.
Alors, je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Alexis Corbière. Je vois pas comment on pourrait travailler 32 heures par semaine et gagner plus. À un moment, il faut arrêter d'être aberrant. Concernant les 35 heures, avant d'avoir été vendeuse en boulangerie, donc je suis, comme on l'a dit, aujourd'hui dans le Morbihan. J'ai habité quasiment toute ma vie en région parisienne et j'étais fonctionnaire de police en région parisienne. J'ai quitté la fonction publique il y a 7 ans. Et je pouvais pas me faire muter, donc j'ai quitté tout simplement mon métier. Et il faut savoir que, alors que ce soit dans la police, les infirmiers, les profs ou tout ce genre de métier, on commence un métier en connaissance de cause. Moi, quand je suis rentrée dans la police, je savais très bien que j'allais pas travailler aux 35 heures du lundi au vendredi, finir à 16 heures, et c'était pas possible. Une personne qui veut devenir infirmière ou infirmier, c'est exactement la même chose. On commence des métiers en connaissance de cause. À côté de ça, il y a certains métiers qui sont purement du numérique ou purement de la gestion en bureau. Pourquoi pas ? Moi, si j'avais la possibilité, quitte à être levée le matin, de travailler 2 heures de plus par jour pour avoir 3 jours de week-end, franchement, je le ferais. Même si je dois passer à 40 heures, si je dois faire 10 heures de travail sur 4 jours et à côté de ça, avoir 3 jours de repos, pourquoi pas ? Parce que c'est des jours que je passerai à avoir du loisir, du temps avec mes enfants, etc. Actuellement, pour être transparente avec vous, on a juste un petit souci d'effectif au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille et je fais mes 37 heures sur 6 jours. Ça veut dire que sur 6 jours sur 7, mon réveil sonne à 5 heures et je vais travailler. Donc si demain mon patron il me dit que j'ai la possibilité de faire le même temps de travail, mais que mon réveil au lieu de sonner 6 jours sur 7, ben, il sonne plus que 4 jours, ben, je dirais pas non, à condition effectivement que j'y perde pas en termes de salaire et en termes de possibilité d'évolution. Après, il y a des métiers, je veux dire, on fait certains métiers, on le sait avant même de commencer. Quelqu'un qui veut devenir professeur des écoles ou dans les collèges, alors dans les lycées et universités, c'est encore autre chose, il sait très bien qu'il va pas pouvoir... je veux dire, avoir des horaires à la carte. Une maîtresse de CE2, elle sait très bien que sa journée, elle va commencer à 8h le lundi, elle va se finir le vendredi à 17h. Et après, on a tous des convictions qui sont différentes, une passion pour le métier.
Mais en tout cas, vous ne seriez pas contre si c'était possible, si l'occasion se présentait.
Bon, moi, je suis dans le commerce. Donc, le commerce.
Mais dans votre métier, c'est pas possible.
Moi, à un moment ou à un autre. Après, si je travaillais dans le numérique et que je pouvais en plus faire du télétravail, alors je ne dis pas, j'en serais.
En attendant, madame, on va vous libérer parce que si vous vous réveillez demain à 5h du matin, c'est ça ?
Effectivement.
Voilà, il est déjà tard. On va vous laisser vous reposer un petit peu parce que la journée va être compliquée demain si on continue. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Et merci à vous, Alexis Corbière. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous libère également.